Radio Okapi.
Voici le sommaire de ce journal des midi sur Radio Okapi. 4 morts, dont un militaire FARDC, c'est le bilan d'une attaque cette nuit des ADF à Ndimo, village situé à 40 km de Komanda sur la route nationale numéro 4, axe Luna, dans les territoires du Rumwanituri. Sud Kivu, l'Assemblée provinciale dispose définitivement de ses 44 députés élus et 4 chefs coutumiers cooptés. Toutes les requêtes en contestation de certains élus provinciaux ont été déclarées irrécevables par la Cour d'appel de Bukavu. Les verdicts ont été rendus hier à Bukavu. Pendant ce temps, l'Assemblée provinciale de l'Ituri a son bureau définitif depuis hier. Notre invitée est la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, qui vient d'effectuer une mission dans la région de Beni au Nord Kivu. Madame Mimi Monga nous parle des mesures pour lutter contre la fraude dans la filière cacao et café dans cette zone. Madame, Messieurs, bonjour. Grâce Amzati Masanzi est à la présentation de ce journal qui part de l'Ituri où 4 morts, dont 3 civils et 1 militaire FARDC, c'est le bilan d'une attaque la nuit de jeudi à ce vendredi des ADF à Ndimo, village situé à 40 km de Komanda sur la route nationale numéro 4, axe Luna, dans les territoires d'Irumu. Selon des sources locales, ces rebelles ont blessé par balle 5 personnes, dont un enfant de 6 ans avant de saccager le centre de santé d'Ndimo. Leur objectif était de se ravitailler en médicaments. Radio Kapibunia, Marcel Kizabiamungu.
Les habitants d'Ndimo, dans la chefferie de Walesevunkutu, ont été surpris vers 19h par des tirs alors qu'ils vaquaient à leurs occupations. Des sources locales rapportent que la vingtaine d'assaillants se sont dirigés tout droit vers les centres de santé d'Ndimo, les celles dans les milliers situées à moins d'un kilomètre de la base de la force conjointe FARDC armée ougandaise et OPDF en opération dans la région. La coalition associative résolue pour la défense des droits humains, CRDH, avance un bilan des 4 mort, dont un militaire FARDC qui tentait de riposter. Parmi les civils tués figure l'infirmier du centre de santé d'Ndimo qui assurait la garde. La même source parle de 5 personnes grièvement blessées, parmi lesquelles un enfant de 6 ans dont la mère fait partie des personnes tuées. Avant de se retirer, ces rebelles ont pris en otage 6 personnes, dont 3 femmes et 2 enfants. Ce vendredi matin, une unité de combat des forces conjointes FARDC-UPDF est allée à la poursuite de ces rebelles dans leur retranchement dans la forêt des Mongé à l'ouest d'Ndimo. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la société civile de la localité de Mamové dans les territoires de Beni au Nord Kivu s'est dit préoccupée par l'insécurité grandissante dans la région. Dans une déclaration faite hier à Beni, Kinos Katuo, le président de cette structure citoyenne, indique que la menace des rebelles des ADF pèse sur la ville de Beni et dans plusieurs autres entités. Il recommande au gouvernement d'accorder la même attention à l'insécurité dans le territoire des Beni au même titre que celle qu'il accorde à la menace du M23. Kinos Katuo demande également à la population de collaborer avec les forces de sécurité pour vaincre les rebelles des ADF. On l'écoute au micro d'André Kitenge.
La situation sécuritaire est très préoccupante dans le territoire de Beni, secteur de Beni Mbau, depuis que les ADF Nalu avaient tué plus de 26 personnes à Oicha, quartier Masosi, en octobre 2023. Espoir de vie à la population de Mbau, Mavivi, Mandumbi, Mangina, Mayangos et Beni Mulekera. Depuis cette date, nous avons déjà enregistré plus de 80 personnes tuées et 60 personnes portées disparues. Voilà, aujourd'hui, nous sommes entouré par cet ennemi de l'est à l'ouest de Samboko, à Benisayo, Mangina, Mambasa et Irumu. Et vous, la population civile qui collabore et ravitaille cet ennemi, nous vous mettons à garde. Nous vous appelons à collaborer avec l'armée et les services de sécurité pour permettre à celle-ci de frapper totalement l'ADF et ses supplétifs. Au gouvernement, prenez en considération les sécurités du Grand Nord avec celle du M23.
Transition de la MONUSCO. Au moins 277 soldats du contingent pakistanais ont quitté le Sud Kivu au courant de cette semaine pour leur pays en Asie. C'est dans le cadre de la première phase du désengagement progressif de la MONUSCO de la RDC. Confirmation hier à Goma du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kegdani Mensa faisait l'habituel point de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC à la presse locale. Il rassure que d'autres phases vont suivre sûrement et que les forces de sécurité nationale donneront le meilleur d'elles-mêmes, surtout après toute l'assistance et le soutien reçu de la mission. Les propos du lieutenant-colonel Kidani Messa sont choisis ici par Jules Ngalawamona.
Dans le cadre de la première phase du plan de désengagement de la MONUSCO, le premier vol de rapatriement des troupes de la MONUSCO a quitté la RDC avec 277 casques bleus du contingent pakistanais qui sont déployés au sud du Kivu depuis près de deux décennies. Ce vol s'inscrit dans le cadre de la fermeture des bases et les vols suivants seront planifiés au fur et à mesure que d'autres bases se fermeront. La MONUSCO s'est engagée à mettre en œuvre le nouveau mandat de retrait progressif tout en permettant aux forces de sécurité locales d'assumer de manière indépendante les responsabilités qui sont les siennes en matière de sécurité. La base de la MONUSCO à Kamanyola, au sud Kivu, a été fermée le 28 février 2024 et a été remise à la police nationale congolaise. La MONUSCO est convaincue que les forces de sécurité locales donneront le meilleur d'elles-mêmes après toute l'assistance et le soutien qu'elle a fourni pour accroître les capacités opérationnelles.
Au Nord Kivu, un calme précaire est rapporté ce vendredi sur toutes les lignes de combat dans les territoires de Masisi. Entre lundi et hier jeudi, des violents affrontements ont opposé dans la région des rebelles du M23 RDF aux forces armées de la RDC et leurs alliés locaux et internationaux. C'est notamment autour de Saki, Bihambwe et Bibwe. Pour plusieurs sources locales, la situation reste toujours volatile, en particulier dans la région de Saki, qui vient de passer presque deux mois dans une précarité. Parfois, ce sont des affrontements ou des bombes qui tombent sur différents villages. Nos sources alertent aussi sur les pillages des biens des populations en déplacement que commettraient encore dans la zone certains hommes armés qui contrôlent Saké et ses environs. En Ituri, Adjarouva Djaladjek Samuel est le nouveau président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Il a été élu jeudi par la majorité des députés provinciaux en même temps que les autres membres du dit bureau. Aucun parti ou regroupement politique n'a eu plus d'un siège dans ses bureaux dont tous les membres sont de l'Union sacrée de la nation. Seul le territoire de Mambasa parmi les cinq circonscriptions électorales que compose la province n'a pas de représentant dans cette équipe de l'organe délibérant de l'Ituri. Marcel Kizabiamongo, une fois de plus.
Adjarouva Djaladjek Samuel du Mouvement de Libération du Congo MLC a été élu au deuxième tour avec 31 voix contre 16 obtenues par son adversaire Oforot Djakonga Sabi du parti FDC. Cet ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri à la législature précédente et Elie Demahagi va désormais diriger cet organe délibérant appuyé par son adjoint Adaba Masomboko. Elie Diromo est issu du regroupement AA Bar INC. Monsieur Masumbuko est surtout connu pour la motion de défiance contre l'ancien gouverneur de la province Jean Bamani Sassaidi qui avait obtenu la confiance de 24 députés provinciaux parmi les 45 qui comptent cette institution. Il a remporté face à Claude Malabo de AFDC qui n'a eu que 23 voix. Sans surprise, Pele Kassouara de l'IPC de Thomas Lubanga, élu de Bounia, candidat unique au poste du rapporteur, a été élu. Il sera secondé par Didonné Sikoti, Eli Dendjougou du regroupement politique AAB 50 de Birek. La question sera tenue par Joseph Tabani, Eli de l'IDPS, Eli du territoire d'Arou, qui a eu plus de voix face à son challenger Antoine Denaya du parti politique CNC. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Kizabiamungu. Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu dispose définitivement de ses 44 députés élus et 4 chefs coutumiers cooptés. Toutes les requêtes en contestation de certains élus provinciaux ont été déclarées irrécevables par la Cour d'appel de Bukavu. Les verdicts ont été rendus hier à Bukavu. Du coup, 3 forces politiques se dégagent majoritaires à l'Assemblée provinciale. C'est ce que nous dit à Bukavu Emmanuel et la Major Kabili.
Sur les 36 requêtes en contestation des élections du 20 décembre 2023 au Sud Kivu, 34 requêtes visaient des députés élus et 2 autres étaient orientées contre des chefs coutumiers cooptés. Dans son verdict rendu le jeudi 28 mars, la plupart de ces requêtes étaient simplement jugées irrécevables et d'autres recevables mais non fondées. Au final, les arrêts de la Cour d'appel de Bukavu valident les mandats de tous les 44 députés proclamés par la CENI et les 4 chefs coutumiers cooptés. Ainsi, à l'issue de cette décision de la justice, 3 principales forces politiques se dégagent en tête à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est d'abord l'AFDC avec 12 députés provinciaux, l'UNC et l'UDPS ont chacune 11 députés provinciaux. Ces 3 partis politiques doivent négocier maintenant la composition du bureau définitif de l'Assemblée provinciale dans quelques jours, mais aussi décider de la gestion du gouvernorat de province avec le ticket de candidat gouverneur et vice-gouverneur du Sud Kivu. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Direction la province du Maniema, où la mise en liberté provisoire du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Idikalonda Dela, n'a pas laissé indifférente la population. Dès l'annonce de cette nouvelle, les habitants ont organisé de manière spontanée des caravanes dans les rues de Kindu pour manifester leur joie. Entre-temps, le président fédéral d'Ensemble pour la République ville de Kindu demande à la justice de classer ce dossier qu'il qualifie de vide. Le chef des travaux, Manuru Amouri, est au micro de Florence Kizalunga.
C'est un sentiment de satisfaction et de joie. Nous remercions l'Éternel Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a gardé d'abord notre leader dans tous ces temps de détention. Et nous remercions la justice congolaise qui vient de lui accorder une mise en liberté provisoire pour qu'il se fait soigner parce qu'il est malade. Mais notre souhait, nous voulons le voir libre, libre de tout mouvement et que son dossier soit classé sans suite parce que c'est un dossier qui est vide d'éléments. Il est meilleur élu de la ville de Kindu et la population a soif de les voir, mais nous demandons à cette population d'être patiente, d'autant plus que leur leader, il est malade, il doit se faire soigner et une fois terminé le traitement, il sera à Kindu pour venir remercier cette population qui lui a placé confiance. Et le chef de l'État avait dit que notre justice est malade, on a arrêté injustement notre leader et le chef de l'État a promis de corriger les erreurs du passé et sa mise en liberté provisoire nous fait croire que c'est la correction des erreurs du passé et nous voulons qu'il soit libéré définitivement et que son dossier soit déclassé sans suite.
Santé, une campagne de traitement gratuit des pieds beaux est en cours ici à Kinshasa pour les enfants des 0 à 2 ans. Elle est menée par des experts de Upworks, une ONG internationale chrétienne basée à Goma et déjà active dans 5 provinces en RDC. Cette campagne s'est faite en même temps qu'une formation du corps médical et des conseillers parentaux. Elle se déroule à l'hôpital de Kalembelembe dans la commune de Lingwala et à l'hôpital sino-congolais d'Enjili. L'activité est soutenue par le ministère de la Santé. C'est quoi le pied beau et comment s'est fait la prise en charge? Réponse dans ce reportage de Marie-France Mungindu.
Les pieds beaux est une malformation congénitale observée chez plusieurs enfants. Il les empêche de bien marcher, comme l'explique Vincent Semou, coordonnateur de cette campagne.
Les pieds beaux fait que, au lieu que l'enfant puisse marcher sur la plante des pieds, il marche sur les dos des pieds. Quand on marche sur les dos du pied, vraiment, ça fait très mal.
La technique Ponseti, utilisée ici comme traitement, permet une réussite de 95%, affirme Vincent Semou.
La méthode Ponseti, elle a deux étapes principales. Il y a l'étape de correction, où nous utilisons les plantes. Et la deuxième étape, c'est l'étape de maintien où nous utilisons les attelles. Les attelles, ce sont des souliers spéciaux. La période du plâtrage va durer jusqu'à 2 mois, tout au plus. Et la phase du port d'attelle va aller jusqu'à 4 à 5 ans. Notre méthode est efficace jusqu'à 95%.
Vanessa, mère d'une fillette qui a bénéficié de cette campagne, exprime sa satisfaction.
Ça évolue bien, c'est-à-dire vous devez être en cohérence avec eux. Je sais qu'ils sont en train de parler, vous devez écouter et puis pratiquer cela.
Wax a soigné plus de 800 cas l'année dernière dans les 11 cliniques qu'elle organise dans les Dékivu, au Maniema et à Ituri.
Merci à vous, Marie-France Mungindu. Parlons de cet appel du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, à tous les opérateurs économiques de la RDC et à la Société nationale d'électricité à s'approvisionner auprès de l'entreprise Proton Kabelec en fil conducteur. Selon lui, certifiée sur le plan international, cette entreprise produit plus de 4000 tonnes de cuivre par an, capable de satisfaire toutes les demandes locales de la partie ouest du pays. Il a déclaré hier en marge d'une visite de travail. Julien Paluku le dit à Paul Matindo.
Cette entreprise vient d'avoir une certification internationale pour démontrer que tous les câbles produits ici à Kinshasa sont des câbles qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises à travers le monde. Parce que la capacité installée ici est de près de 4000 tonnes de cuivre à utiliser chaque année. Lorsque vous voyez le cours du cuivre sur le marché mondial, il est de près de 8000 quelque chose dollars par tonne. Ça veut dire, si on utilise 4000 tonnes ici, ça fait près de 34 millions de dollars que nous gardons dans notre économie congolaise. Alors, l'appel que je lance à tous les opérateurs économiques, à la Société nationale d'électricité de la RDC, c'est de pouvoir s'approvisionner ici, parce qu'il est impensable que la SNEL et tous les opérateurs économiques continuent à sortir des devises pour aller acheter à l'extérieur, alors que nous avons une production locale qui est à même de satisfaire toute la demande locale de la partie ouest de la RDC.
Voilà, c'était là le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Nous vous présentons nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément sonore.
Actualité internationale.
Tout en saluant dans un communiqué l'acceptation unanime des résultats, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, félicite chaleureusement le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour avec plus de 54% des voix au scrutin de dimanche et lui souhaite plein succès dans sa lourde et noble charge selon le communiqué.
L'invité.
La fraude dans la filière cacao et café dans la région de Beni au Nord Kivu a été au centre d'une série d'échanges mardi entre les intervenants dans la chaîne de production et d'exportation et la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, qui vient d'effectuer une mission dans la zone. Comment expliquer cette fraude et quelles mesures pour lutter contre cette situation? Mimi Monga, directrice générale de l'ONAPAC, répond dans cet entretien avec André Kitenge.
Mimi Monga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Beni pour évaluer le secteur agricole, notamment celui du cacao et du café. Comment se portent ces secteurs dans la région de Beni, confrontés à plusieurs difficultés sécuritaires et d'exportation des produits à l'extérieur du pays?
Merci beaucoup. Je suis descendue à Beni en vue d'évaluer les secteurs du côté production et du côté exportation. Vous avez raison, le secteur est un peu en ballottement, vous savez, avec l'insécurité. Les cacaoculteurs, le café les agriculteurs sont en train de vider les champs. La production diminue par ces fêtes-là et ces produits passent par la fraude parce que ceux qui les cueillent ne sont pas les propriétaires des champs. Ils les font passer par fraude. Donc c'est vraiment un problème qui doit être étudié en profondeur pour voir dans quelle mesure essayer de remonter cette pente.
Vous avez certainement rencontré les parties prenantes et autres partenaires du secteur agricole pour aplanir certains différends relatifs au paiement des taxes. Peut-on en savoir plus?
Nous n'avons pas abordé la question de la taxe, mais plutôt la question du passage frauduleux de nos produits. C'est ainsi que nous avons eu à échanger avec les banques de la place. Nous avons échangé avec les services qui entrent en ligne de compte, à savoir l'OCC. La DGD a été invitée, mais ne s'est pas présentée. Nous étions avec le GFREM. Nous étions avec d'autres services qui entrent en ligne de compte, comme je venais de dire, en vue de voir dans quelle mesure essayer de trouver des solutions idoines pour renforcer les mesures au niveau de la frontière.
Plusieurs acheteurs et exportateurs des produits agricoles de la région de Beni éprouvent d'énormes difficultés pour exporter leurs produits à l'extérieur du pays, évoquant la surtaxation au niveau du pays. Avez-vous réglé aussi cette question afin qu'ils exportent au même titre que les pays voisins, notamment l'Ouganda, éviter ainsi de recourir à la fraude?
Merci beaucoup. Comme vous le savez, la redevance que l'ONAPAC perçoit aujourd'hui, c'est une contrepartie des services rendus dans les plantations. L'ONAPAC a pour mission d'accompagner les agriculteurs de la plantation jusqu'à la cueillette et même avant l'exportation. Et donc cette redevance que nous percevons, de qui est aujourd'hui à 1,4, fut jadis à 9. Et comprenant toujours ce problème-là, l'ONAPAC n'a pas hésité d'accepter le rabattement à 1,4. Donc c'est une action idoine qui a été prise par l'ONAPAC pour faciliter les exportateurs.
L'ONAPAC est un établissement public qui doit promouvoir les produits agricoles d'exportation, notamment le café, le cacao, le quinquina, le thé et tant d'autres. Quel est le produit le plus exporté aujourd'hui par la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qui motive cette situation? Et si les autres produits sont en baisse, quelles sont les causes et comment l'ONAPAC pense résoudre cette question?
Répondant à cette question, aujourd'hui nous avons le cacao qui a remonté. Officiellement nous avons 53 000 tonnes qui ont été déclarés, mais avec la fraude, nous pensons que ce qui est sorti peut arriver même à 90 000 tonnes. Le café Robusta est en baisse et nous sommes en train de voir comment essayer de remonter la pente, c'est-à-dire faire la promotion de cette culture. Vous savez, avec la flambée des prix aujourd'hui du cacao, tout ce qui était dans les cafés se verse dans les cacao. C'est ainsi que vous voyez que du côté café, il y a quand même un ballottement que nous devons encadrer justement et nous sommes en train de demander à tous les caféiculteurs de ne pas abandonner leurs champs et de ne pas couper le caféier parce que aujourd'hui c'est le cacao, mais demain ça peut être le café.
Aujourd'hui, le prix du cacao a galopé. Avez-vous pris des mesures pour réglementer le prix dans ce secteur au niveau local? Et quelles seront les retombées pour la République démocratique du Congo en termes de gains?
Nous avons une mercuriale au niveau du commerce extérieur qui se réunit chaque vendredi et donc les prix sont bien réglementés. La République gagnerait justement si les produits ne passaient pas par la fraude. Les chefs de l'État, les garants de l'unité de la sécurité nationale ne ménagent aucun effort pour que la paix revienne dans les zones dites occupées et nous espérons que dans quelques mois, ces paysans seront sécurisés à 100%. Et en ce qui concerne la perte que la RDC acquise aujourd'hui, l'on n'a pas l'Office national des produits agricoles du Congo essaie de voir comment délocaliser certains produits dans les zones en sécurité. C'est ainsi que nous avons même commencé un grand projet dans les Haut-Katanga et au niveau du Kasaï aussi pour bientôt et dans les alentours de Kinshasa.
Mimi Monga, merci.
Merci beaucoup.
Notre invitée, Mimi Monga, directrice générale de l'ONAPAC, s'entretenait avec André Kitenge. Ainsi s'achève ce radio-journal, coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nsoalou. Merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur www.radiokapi.net.